curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, premier sujet ce matin, on va parler de la COP26. Le premier ministre du Québec, François Legault, y sera. Il doit faire un discours même, il n'est pas juste présent. Et la question des commissaires ce matin, est-ce que le Québec peut enseigner à la planète des façons de lutter contre les changements climatiques? Devinez qui veut s'exprimer en premier. Luc.
Il doit-tu être mort de rire, M. Legault? Moi, t'as dit. Ben, c'est vraiment un malentendu, mais c'est intéressant. C'est intéressant à regarder quand même. Tu sais, le Québec a un plan vert extrêmement mince. Et en particulier, je dirais même un refus de considérer l'environnement dans plein de domaines. Tu sais, notamment sur l'étalement urbain, le transport. Il n'y a pas une mousse de contrainte qui a été faite dans rien. Tu sais, genre une taxe pour les chars qui sont capables de tirer une maison, des choses de même. Non, il n'y a pas, il y en a pas. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a rien. Et là, tu te dis, ben, effectivement, c'est pas le gars pour aller expliquer la situation. Mais le malentendu vient du fait qu'on a refusé, le gouvernement du Québec a refusé dorénavant l'extraction de pétrole et de gaz sur le territoire du Québec. Et ça, c'est extrêmement rare. À travers la planète, c'est extrêmement rare. Bon, nous, tu diras, on l'a fait parce qu'il n'y a pas une scène à faire avec ça. Parce qu'il y en a très peu. Il est difficile à extraire. Ça aurait demandé d'énormes subventions. Donc, on l'a fait parce que c'est ça. T'sais, s'il y avait eu de l'argent à faire avec ça, je pense bien que M. Legault l'aurait fait. Hein. Mais quand même, il y a personne qui l'a fait dans les pays producteurs de gaz et de pétrole à travers le monde. Je pense à des pays comme le Danemark puis la Norvège. Écoute, le Danemark et la Norvège, les gros plans environnementaux proposent d'arrêter l'extraction du pétrole et du gaz en 2050. Donc, le Québec a l'air d'un élève, un bon élève, et pas simplement un bon élève, mais peut-être quelqu'un qui pourrait donner quelques recettes. Ils vont être un peu déçus quand ils vont entendre l'ensemble de l'œuvre.
Nathalie.
Ben moi, tout d'abord, je me demande si on va assister à la conversion de M. Legault comme celle qu'on a vécue avec Philippe Couillard en 2015. Rappelez-vous, la COP21, Al Gore avait encensé le Québec à ce moment-là, et je cite Al Gore, si vous permettez, « Merci au peuple du Québec, reconnu comme un vrai héros dans les solutions à la crise du climat », et d'ajouter « Le Québec montre la voie ». Mais à ça, à la présence de Philippe Couillard, il avait ajouté un chèque de 25 millions pour aider les pays pauvres pour lutter contre les changements climatiques. Je doute que sans ce chèque, M. Al Gore ait été aussi dithyrambique à l'endroit du Québec. Mais honnêtement, soyons réalistes, si François Legault est invité, et c'est ce que son bureau a confirmé, c'est que le Québec effectivement posé à annoncer ses couleurs en matière d'exploration, d'exploitation gazière et pétrolière. Tu l'as dit, Luc, il n'y a plus de juridictions qui sont allées dans cette voie-là. Mais si vous voulez mon avis, c'est une solution facile parce que on a un peu exploré en pétrole-gaz au Québec, mais on n'a jamais exploité. Écoute, on était au balbutiement d'une possible, peut-être, industrie qui allait émerger. Moi, j'y ai cru une certaine époque, lorsque j'étais au gouvernement, lorsque j'étais ministre des Ressources naturelles, mais collectivement, la population nous a jamais suivis là-dessus. Puis aujourd'hui, Luc, tu dirais peut-être que c'est une hérésie de penser aller dans cette direction. Je partage ton point de vue, compte tenu de l'importance et de l'urgence de lutter contre les changements climatiques. Mais revenons au Québec en matière de bilan. On peut pas dire que le Québec a un bilan très, très reluisant. Il y a nos émissions de gaz à effet de serre ont diminué de quoi depuis 2019? À peine 4 %, 3 quelques %.
Il y avait beaucoup diminué au début des années 2000, puis on recommençait à monter après. Fait que le total, c'est à peu près moins 4, ouais.
Ben écoute, depuis 90, le recul seulement de 3,1 %, alors que la barre a déjà été beaucoup plus haute que ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement de François Legault fixe une nouvelle cible. Il dit il faut diminuer nos émissions de GES de 37,5 % d'ici 2030 par rapport à 90. Fait qu'imaginez, on a réussi à les diminuer seulement de 3 % depuis 90. Puis là, on veut augmenter la barre à 37 % et plus d'ici 2030. Je pense qu'on va tous se mettre au vélo, mon cher Luc, là, parce
non,
que...
c'est au vélo électrique.
Mais, au vélo électrique, oui.
Mais non, mais c'est l'auto électrique, la solution de monsieur Legault. J'ai tout le temps dit, monsieur Legault, il joue aux cartes avec juste une carte dans son jeu.
Non, mais la voiture électrique, Luc, c'est pas seulement la solution de monsieur Legault, c'est la solution d'à peu près toutes les juridictions sur la planète. Mais ce fameux rendez-vous, moi, j'espère qu'il va y avoir quelque chose qui va sortir de ce rendez-vous, mais je regardais hier le site de la COP26. Je vous dis, là, c'est hallucinant la bureaucratie qu'il y a derrière ça. Là. Ça n'a aucun aucun sens. C'est tellement lourd comme structure, mais je comprends parce que là, c'est l'ensemble des pays de la planète qu'on veut évidemment fédérer pour trouver des solutions durables à la lutte au changement climatique. Je vous dis ça, puis en même temps, on apprenait, c'est cette semaine, dans un magazine français, on apprenait que, oui, le, tu parlais du charbon cette semaine, Luc, 43 % de centrales en moins depuis 2015. Par contre, il y a un regain dans certains pays d'Asie. Il y a 37 pays aujourd'hui qui envisagent de construire des nouvelles centrales au charbon, dont la Chine, qui accapare 55 % de ces nouvelles constructions. Fait que, on fait des efforts d'un côté, puis de l'autre côté, tu comprends, c'est comme on fait le contraire.
Mais tu sais que il y a deux pays qui ont, notamment deux pays qui ne sont pas signataires des accords de Paris, l'Inde et la Chine.
Oui.
Mais ça, j'entends ça beaucoup des auditeurs, là, en disant, on a beau faire tous les efforts de la planète, là, à nous tout seuls, là, mais la Chine,
puis
l'Inde...
Il y a une raison. C'est que la façon dont les gaz à effet de serre sont calculés, c'est calculé à la production, pas à la consommation. Fait que si, par exemple, tu achètes des produits chinois, les gaz produits lors de la production de ce produit-là, ils sont calculés en Chine, pas au Canada. Fait que si tu réduis la consommation de chemises, mettons, ou de n'importe quoi qui est produit en Chine, tu réduis ta consommation de GES, mais ça va réduire en Chine. Mais si tu l'augmentes, ça va augmenter en Chine. Les Chinois disent, on n'est pas responsable du fait que le monde entier consomme chez nous de plus en plus de produits. Alors, enfin, en partie responsable parce qu'il accepte de les produire.
Mais moi, cet argument, Paul, puis je l'entends aussi, ça, c'est qu'il faut savoir qu'au Québec seulement, il y a 4 000 Québécois qui meurent prématurément chaque année à cause d'une mauvaise qualité de l'air. Fait qu'on peut bien effectivement se comparer puis dire, ben là, ça donne quoi effectivement de faire tous les efforts qu'on nous demande alors qu'en bout de ligne, il n'y a peut-être pas d'effet tant que ça notable sur la planète. Mais pratico-pratique, là, 4 000 décès prématurés dus à une mauvaise qualité de l'air. Regardez à Montréal, par exemple, combien d'épisodes de smog dans une année. L'été dernier, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Moi, je trouve pas d'éco-anxiété. Luc, dans la vie, je sais pas toi, mais moi, l'été passé, là, voyant le nombre de sécheresses, de feux de forêt, la canicule, je me suis dit, oh, puis c'est concret, les changements climatiques, là, dans l'est du Québec, d'où je viens, en Gaspésie, ben, depuis plusieurs années maintenant, le littoral, ben, à chaque année, on perd 50 cm de territoire. Les îles de la Madeleine, c'est vraiment problématique, de plus en plus problématique.
Oui, puis aussi le prix des fruits et légumes, tu l'as dit, le nombre de canicules, etc. On les voit peut-être moins fort que dans d'autres pays, mais on va les sentir sous la forme d'un chaos social à partir du moment où les prix vont beaucoup augmenter. J'aimerais dire quand même une chose. Si le Québec veut faire... Le rédacteur du discours de M. Legault, s'il est un peu talentueux, il va réussir à le faire passer pour quelqu'un de bien. Parce que il y a quand même une couple d'éléments que tu peux rajouter sur positifs sur le Québec. D'abord, il y a le rejet d'exploration pétrolière, mais il y a aussi la Caisse de dépôt qui a décidé de retirer de ses actifs le pétrole d'ici 2022. Tu rajoutes à ça nos exportations d'hydroélectricité aux États-Unis.
Tout à fait.
Les lignes de haute tension souterraine, notamment, génial. Et donc, là, à la possibilité de faire réduire, si c'était bien fait, le pétrole à New York. Là, donc, tu commences à avoir quelques éléments pour faire un discours. Pas pour faire un plan, mais pour faire un discours.
Oui, mais Luc, tout ce que le Québec produit en matière d'énergie, là, évidemment, la majorité étant liée à l'hydroélectricité, on est probablement l'État sur la planète où où les émissions de gaz sont les plus faibles, absolument.
Ouais.
Oui, écoute, c'est absolument remarquable.
Nathalie, je ne sais pas si à la pause, il va leur parler du troisième lien pour les divertir un peu.
Avec une petite musique de fond, c'est ça?
Oui, puis avec une photo de Lévis, tu sais, un tunnel de centre-ville à centre-ville.
En passant, Luc Ferrandez, là, ceux et celles qui défendent le projet de troisième lien là, sont intelligents, contrairement à ce que tu as sous-entendu semaine.
Non, là-dessus, on va en débattre très, très, très...
Mais c'est pas le sujet ce matin. On peut revenir, comme on le fait rarement, demain sur le troisième lien, si vous voulez. On va s'arrêter pour la pause. Est-ce qu'on exige trop des médecins québécois? On pense principalement aux médecins de famille.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, alors, on y va avec notre deuxième sujet. Est-ce qu'on exige trop des médecins au Québec? Là, c'est vraiment une partie de bras de fer entre le syndicat des omnipraticiens et le gouvernement Legault. Nathalie.
Ben, j'ai envie de te dire qu'il y a une majorité qui en font énormément, 45 heures en moyenne de travail, puis il y en a qui en font 70. Hier, j'écoutais... En fait, ce que je sais, c'est que là, le gouvernement met une pression, selon moi, démesurée sur les médecins de famille. Le climat n'est pas du tout favorable à la discussion, à la négociation. Hier, j'entendais le ministre de la Santé, Christian Dubé, hier après-midi, nous dire que 60 % des 10 000 médecins de famille font leur travail correctement. 40 % selon lui n'ont pas assez de patients. Donc 40 % s'équivaut à 4 000 médecins. Et là-dessus, il y en a 1 500 qui n'ont pas 500 patients puis qui ne travaillent pas 150 jours par année. Donc, conclusion, le problème réside dans 15 % des médecins, donc 1 500 qui n'ont pas 500 patients par jour puis qui ne font pas 150 jours de travail par année. Si, mathématiquement, si ces 1 500 médecins prenaient un 500 patients additionnel, ça ferait 750 000 Québécois qui auraient accès demain matin à un médecin de famille. Trop beau pour être vrai. L'équation est beaucoup trop mathématique pour que ça se réalise. Pourquoi on met trop de... Moi, je pense qu'on leur met trop de pression, là. Parce que là, on est en train de faire ce qu'on fait depuis des années, c'est-à-dire pour solutionner le problème de l'accès, bien on sort le bat de baseball. Là, c'est plus le bat de baseball, c'est le bazooka qu'on est en train de sortir. Moi, je dis pour régler le problème une fois pour toutes, là, le ministre de la Santé nous demande, en fait, souhaite changer la culture du réseau, mais il doit le faire également pour ce qui est de l'accès à un médecin de famille. Ça veut dire qu'il faut quitter l'approche médico-centriste. Puis c'est pour moi qu'il dit là. C'est puis d'ailleurs le premier ministre François Legault aime bien ça, faire des lectures. Je lui suggère le texte du docteur René Laberge, René au féminin. Elle est de la clinique Proximité dans Saint-Roch à Québec. Elle a publié un texte d'opinion le 22 septembre 2021, donc du 22 septembre dernier, dans lequel elle dit effectivement qu'il faut revoir toute la première ligne. C'est-à-dire qu'actuellement, tout le réseau repose de la première ligne sur les épaules du médecin de famille. Elle dit, il est en bas de la pyramide. Il faut le mettre en haut de la pyramide. Alors, il faut mettre à ça, il faut mettre à contribution les autres corps d'emploi qu'on connaît, le pharmacien, infirmière, praticienne, clinicienne, etc. Les médecins spécialistes également, il semblerait qu'ils n'en font pas assez après les opérations. Ils doivent faire un suivi davantage. Mais là, s'ils font pas correctement leur travail dans les suivis après les opérations, c'est le médecin de famille qui écope. Moi, j'ai une suggestion très concrète ce matin pour le ministre de la Santé, là. Prenez tout ce monde-là, là, hein, monsieur le ministre, là, le Collège des médecins, les ordres professionnels, les différents syndicats, fédérations. Louez une salle pas trop grande, montez le chauffage, fermez la porte. Puis, puis écoute, là, tu dis, là, il faut s'entendre, là, ça ne fonctionne plus.
Je pensais, Nathalie, que tu allais dire, réunissez-les dans une église en Acadie, avec un bateau pas trop loin.
Je suis pas si radical que toi, Luc Ferrandez. Non, mais c'est, comprenez-vous, parce que si c'est le problème, c'est on cherche toujours, on fait toujours les mêmes, on privilégie toujours les mêmes solutions pour répondre aux problèmes d'accessibilité. On y arrivera jamais. On a mis 1 milliard d'incitatifs depuis 3 ans pour accéder auprès des médecins omnipraticiens. Et ça a donné quoi? Ça a donné qu'il y a 869 000 et plus de Québécois aujourd'hui qui n'ont pas accès à un médecin. Il faut changer vraiment le problème. Il faut régler le problème à la source. Et il faut la changer, cette culture-là d'accès de première ligne.
Luc? Bien d'accord avec toi qu'il faut changer le problème à la source, mais un petit recul en arrière là, pour dire comment il est mal pris. Là. Puis, c'est que, rappelle-toi qu'il y avait un moment où les médecins québécois, on jugeait qu'ils étaient moins payés que les autres, puis on s'est dit, on va les perdre parce qu'on est entouré des États-Unis, de l'Ontario, qui les paient beaucoup. Parce qu'on aurait pu, à ce moment-là, adopter un modèle de paiement, rémunération moins élevée des médecins. En France, ils sont à peu près 2 fois moins payés. En Suède, encore moins payés, mais il y en a plus, il y en a beaucoup plus. Et donc, on a choisi un modèle où il y a peu de médecins, mais qui sont bien payés, parce qu'on s'est dit, ben, comme ils sont bien payés, ils vont performer. Et en plus, on les perdra pas, ils s'en iront pas en Ontario pour aux États-Unis. Et ça, là, Couillard intervient et puis arrête une partie de la réforme Barrette qui dit, si jamais il n'y a pas la performance, vous allez avoir des pénalités. Et depuis ce temps-là qu'on rame. Et là, Legault se dit, ben, bon, on a essayé l'Institut de la performance, on a essayé les bonis, on a essayé les hauts salaires, on a tout essayé. Et là, je suis pris avec des médecins qui gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, beaucoup, beaucoup plus que la plupart, beaucoup plus que les autres Canadiens, entre autres, qui gagnent déjà pas mal plus que les autres dans le reste du monde. Il faut qu'ils performent. Parce que là, il y a une sorte de, il y a un problème, presque une indécence, là. On a une situation où la qualité l'accès aux soins, elle est extraordinairement mauvaise, alors qu'on paye beaucoup. Et il faut que ça cesse. Mais là, il n'y a pas le choix. Soit il fait une réforme comme celle que tu proposes, Ou alors, il essaie une dernière cartouche de dire, je mets l'autre partie de la réforme Barrette qui n'avait pas été mise en place, qui consiste à dire, je vous donne beaucoup d'argent, mais je m'attends à de la performance individuelle, puis je m'attends à un caseload de minimum 1000 personnes et peut-être plus. Je m'attends à des indices de performance. Si ça marche pas, bon, je suis pas sûr qu'il va réussir à le faire, mais si ça marche pas, t'as raison, faut aller vers la réforme. Et là, il faut qu'il soit transparent, puis il faut qu'il soit ouvert, puis il faut qu'il nous le dise. Il faut qu'il nous le dise, là. Si ça marche pas, on s'en va où avec ça?
Mais l'exercice, Luc, justement, c'est ça le problème. Il est pas si mathématique. J'entendais la médecin qui t'a parlé, Paul, un peu plus tôt. Elle a une clientèle, évidemment, qui souffre de dépendance. Il y a des clientèles un peu plus lourdes. Puis c'est une réalité dans notre société. Là, tu vas pas juste consulter médecin maintenant pour une mycose des ongles, par exemple. Là, tu te rends compte, ton patient, il y a, je sais pas, des problèmes de dépression, d'anxiété. Les cas sont plus lourds. Les réalités sont plus complexes. Alors, le patient dans ton bureau, Luc, c'est pas vrai que top chrono 10 minutes, puis après ça, bye-bye, on passe au suivant. Là. Maintenant, c'est quoi? C'est 20 minutes, 30 minutes, tu prends le temps de parler à ton patient. Fait que, oui...
Et c'est de la bonne médecine. Et c'est
oui,
de la bonne médecine.
Oui, pas oui.
Ça, sur statistiquement, ça indique que tu n'as pas fait assez d'efforts, mais dans les faits, c'est de la bonne médecine. C'est des bons soins de santé.
Ben, c'est-à-dire que c'est une médecine à dimension humaine. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. L'autre chose, tu l'as dit, il y a l'accès et il y a la capacité qu'a le patient de voir son médecin lorsqu'il a un médecin de famille. Ça aussi, ça revient constamment dans les discussions. Ben oui, j'ai un médecin, mais je peux pas le voir. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me retourne puis je m'en vais au privé ou je m'en vais à l'urgence. Hier, justement, le ministre de la Santé nous disait que les fameux cas là, à l'urgence, le P4, P5, là, ben il dit tous ces cas-là là, à l'urgence, ça pourrait se faire dans les cliniques. Là, ce matin, je voyais, je pense, le Journal de Montréal, ils veulent créer un nouveau principe, là, les cliniques d'urgence. Arrêtez-moi
ouais,
ça,
non,
ben,
c'est ça.
Comme, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut faire, c'est que sur le terrain, l'infirmière praticienne ou clinicienne ou auxiliaire ou technicienne, elles doivent en faire plus. Il faut réduire la paperasse. Saviez-vous qu'un médecin, après, lorsqu'il sort des études, il doit faire 15 ans d'hospitalisation au Québec? Mais si on coupait ces années-là en deux, là, il faut qu'il y ait à l'hôpital. Soit à la clinique, au CLSC pour certains.
C'est ça, mais ils sont au cœur de la solution dans les hôpitaux. Là. C'est eux qui font le trafic, c'est eux qui font le triage au-delà de l'urgence. Tu n'obtiens pas ton bon de sortie de l'hôpital si tu n'as pas vu un médecin. D'ailleurs, c'est un problème. Mais moi, j'ai une question à te poser, Nathalie. Tu parles de plein de petites solutions. Là, l'autre fois, on disait ensemble, il y a 3000 médecins qui vont partir parce qu'ils ont 65 ans et plus.
1 sur 4, 25%.
Ouais. Puis là, on a un vieillissement de la population. Il y a 800 000 personnes de 75 ans et plus qui vont s'en venir d'ici 10 ans. Est-ce que les petites solutions vont fonctionner?
Ben, c'est parce que lui qu'il faut penser en dehors de la boîte. Tu sais, c'est pas vrai. Moi, ce que je trouve frustrant aussi, c'est que pour voir un médecin spécialiste, il faut que tu vois ton médecin de famille. Je vais aller voir un dermato, il faut que je passe par mon médecin de famille. Pourquoi je pourrais pas faire l'inverse? Je vais voir le dermato, puis lui, il fera le suivi avec le médecin de famille. Il y a beaucoup de systèmes qui sont informatisés. L'autre chose, c'est, bon, nos fameux immigrants, les médecins
qui arrivent
au Québec.
Parce que le dermato, il va te répondre, tu es pas sûr que tu es rendu à venir me voir. Va donc voir ton médecin de famille, puis lui, il va voir si ça prend une référence ou pas, parce que là, ils vont être sollicités.
Ouais.
C'est un peu la maison des fous, là. C'est-à-dire que c'est comme des gens qui sont référés à l'hôpital en disant allez à l'urgence, qui ont été vus par un médecin. Ils arrivent à l'urgence. Le médecin dit vous avez besoin d'une radiographie. Ouais, mais attendez, il faut voir l'autre médecin.
Oui, mais Paul, tu vois, le système est en train d'imploser sous nos yeux. Ça ne fonctionne pas. Infirmières praticiennes, celles qu'on appelle les super infirmières, 4000 en Ontario, 625 au Québec. Moi, peut-être que l'infirmière praticienne, elle pourrait me dire si je suis autorisée à sortir ou pas à l'hôpital, ou elle pourrait me dire si le dermato, faut que je vois mon médecin de famille, ou je peux peut-être aller voir, faut que j'aille voir le spécialiste. Tu vois, les tâches doivent être davantage partagées. Ça, c'est mon point de vue. Mais écoute, clairement, on peut pas continuer comme ça, là, c'est impossible. Écoute, puis là, les médecins de famille sont en beau joie le vert au Québec. Ils sont fâchés.
Mettons que ma boîte de courriel est remplie de confessions. Ils sont en tas. Ça se résume à ça. Ils sont pas. Puis ceux qui sont en tas sont ceux qui travaillent.
Ben
tu comprends? Ils se sentent évidemment interpellés, mais en disant, mais moi, je travaille beaucoup. Là,
c'est ça le problème quand on dit les médecins.
Ben oui, c'est ça. Comme disait l'autre, on aime beaucoup notre médecin, mais les c'est autre chose.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.